l'heure des rendez-vous de l'histoire, où il est question cette année de l'Italie. Il se pose toujours la question de la diffusion, de la médiation qui découle d'un événement comme celui-ci. On peut surtout s'interroger sur la médiation et la transmission de l'histoire en général, et c'est ce dont nous allons parler dans cette émission. Pour cette émission, nous avons convié deux professeurs pour en parler. Nous sommes là pendant une heure. Cette émission est proposée par le département d'histoire de l'Université de Tours. On peut la retrouver tous les deuxièmes mercredis du mois de 20h30 à 21h sur Radio Campus. Je suis moi-même accompagné de Julien.
Bonjour.
Qui aura de nombreuses questions à vous poser. Sébastien, qui réalise l'émission, nous présentera une chronique tout à l'heure. Bonjour Cédric Delaunay.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire-géographie au lycée Descartes de Tours et vous avez publié Mythes et légendes du Moyen-Âge chez Métiers en 2016. Et plus récemment, vous avez publié en 2018 chez Nouveau Monde Game of Thrones de l'histoire à la série. Bonjour Pascal Bribois.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Tours. Vous êtes membre du CESR, Centre d'études supérieures de la Renaissance, qui se trouve aussi à Tours. Et vous êtes spécialiste de Léonard de Vinci et de l'histoire des sciences et des techniques. Vous avez notamment écrit Léonard de Vinci, homme de guerre, publié chez Alma en 2013. Et vous venez de publier Les audaces de Léonard de Vinci, publié chez Stock. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est que vous avez travaillé sur une web-série qui s'intitule Sur les pas de Léonard, qui est une série documentaire qui s'inscrit justement dans la médiation de l'histoire. Sur les rendez-vous de l'histoire, d'abord, j'imagine, Pascal Bribois, que vous n'avez pas été surpris par le thème de cette année au vu des nombreux événements qui ont eu lieu cette année, les 500 ans de la mort de Léonard.
Oui, nous sommes sous les projecteurs, notamment avec ces tensions encore très actuelles autour de l'homme vitruvien.
Et vous, du coup, Cédric Delaunay, vous êtes déjà venu au rendez-vous de l'histoire. Est-ce que vous qui enseignez à des lycéens, est-ce que vous avez proposé à vos élèves d'y venir? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il faut venir au rendez-vous de l'histoire?
Alors, on essaye de faire venir au maximum nos élèves dans la limite de la possibilité, notamment le vendredi, parce que c'est quand même un moment important pour eux de sortir des cours d'histoire tels qu'on peut leur donner au lycée, où on obéit essentiellement aux exigences du baccalauréat, avec des formats horaires forcément réduits, des simplifications parfois, on va dire, expéditives. Là, ça leur permet de se mettre en contact avec des professeurs d'université, des chercheurs, et qui permettent de voir des points plus singuliers et plus approfondis, et donc de prendre véritablement contact avec ce qu'est véritablement l'histoire.
Est-ce que vous vous souvenez tous les deux à quand remonte votre premier rapport avec l'histoire? Comment vous êtes intéressé à l'histoire? Est-ce qu'il y a une œuvre particulière, un ouvrage, un professeur qui vous ont marqué? Pascal Bribois notamment.
Je crois que j'ai toujours eu de l'intérêt pour l'histoire, et je pense que comme Léonard, la question du temps qui passe me fascine et me fascinait déjà tout petit. Mais le moment où j'ai décidé d'être historien plutôt que philosophe, j'étais plutôt parti vers la philosophie, c'est quand j'ai lu le livre de Robert Mandrou, L'introduction à la France moderne, et où j'ai découvert que l'histoire, ça pouvait être aussi l'histoire des sensibilités, l'histoire des objets, l'histoire des techniques. Et je me suis dit, bon, c'est ça que je veux faire. Et ça a été vraiment une épiphanie, pour parler comme Léonard.
Et vous, Cédric Delaunay, qu'est-ce qui vous a amené à l'histoire?
Je voudrais rendre hommage à un de mes professeurs de collège, M. Lecoinc.
D'accord.
Qui effectivement donnait une dimension très humaine aux choses et incarnait véritablement des moments historiques et des personnages historiques, qui nous a donné envie d'aller plus loin ensuite. C'est une histoire de curiosité. D'accord. Et d'ouverture. Et pareil, autre hommage à un autre professeur, M. Royer, qui était professeur au lycée Balzac, et c'était à Tours, et c'était quelqu'un d'extraordinaire, qui nous a donné envie d'apprendre l'histoire, mais au-delà des cours, c'est-à-dire au-delà de la simple utilité pour avoir des bonnes notes ou pour avoir le baccalauréat, de nous intéresser au sort des hommes à travers le temps.
Cédric Delaunay, vous racontez dans votre ouvrage Game of Thrones de l'histoire à la série quels sont les personnages historiques, les lieux, les événements qui ont inspiré la série Game of Thrones. Alors je le rappelle pour les profanes, Game of Thrones c'est d'abord 5 romans publiés entre 1996 et 2011 et écrits par l'américain George R.R. Martin. Et ces romans vont donner lieu à une adaptation sous la forme d'une série télévisée du même nom dès 2011. Et donc vous, Cédric Delaunay, vous revenez d'abord sur la géographie de ce monde imaginaire, sur ces lieux, sur les nombreux événements qui s'y déroulent, sur les nombreux personnages que l'on y trouve, et vous faites le parallèle qu'il y a entre ces éléments dans Game of Thrones et la réalité. Et vous nous faites remarquer, entre autres, qu'un personnage ressemble étrangement à Jeanne d'Arc, qu'un autre s'apparente clairement à Savonarole. Le mur de la série, ultime rempart des vivants, c'est le mur d'Adrien, ultime rempart face au monde barbare. Et le conflit entre les dynasties de la série s'apparente à la guerre des Deux Roses. J'ai une première question, d'abord, comment avez-vous eu l'idée d'écrire cet ouvrage?
Alors d'abord, l'idée m'est venue parce que pour moi, ça sautait aux yeux. Ça sautait aux yeux que l'auteur avait emprunté des éléments à l'histoire réelle. Et donc j'ai commencé à chercher un livre qui faisait ces parallèles. et je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas. Alors il n'y en avait pas, ou bien il y avait des choses éventuellement en langue anglaise, on m'avait dit qu'il y avait des choses en langue anglaise, mais la langue de Shakespeare étant totalement étrangère, c'était compliqué pour moi d'envisager une lecture en anglais. Donc bah, je me suis lancé dans l'écriture de chapitres test, que j'ai présenté à Nouveau Monde, et tout de suite ils ont marché par l'intermédiaire d'Éric Allary, qui est historien aussi, et il m'a mis en contact et ça m'a permis de me lancer là-dedans. Et ça m'est venu aussi parce que aux élèves, par exemple, quand je leur parlais des 1, j'avais des grands yeux assez désorientés devant moi. Qu'est-ce que c'était les 1 etc. Je leur dis, bah, les Dothraki, vous voyez ce que c'est? Ah bah oui, bah, les Dothraki, ouais, ouais, nickel. Bah voilà, c'est à peu près la même chose, quoi. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, des images que nous avions collectivement, notre génération, ou bien des gens qui ont fait de l'histoire, des jeunes générations et le grand public ne les ont plus, parce qu'on n'apprend plus ça à l'école, et que pour que l'on crée une culture commune, eh bien il faut passer par d'autres biais.
Par la fiction.
Par la fiction, et que la fiction peut être une bonne porte d'entrée pour rentrer dans l'histoire. Peut-être moins intimidant qu'un livre d'histoire. Évidemment, la série est un élément évidemment qui emprunte à la réalité, et en passant par ce biais-là, on peut... Alors bien sûr, la fiction n'est pas à la réalité, on va sûrement en parler, mais c'est une porte d'entrée.
Alors Pascal Brouillard, il n'est pas question d'un alter ego de Léonard de Vinci dans Game of Thrones, mais vous, Léonard, vous suivez donc sa trace dans une série documentaire en 13 épisodes. Dans la série Sur les pas de Léonard, Pascal Brouillard, on vous voit vous rendre en Italie, vous rendre dans la ville natale de Léonard en Toscane, et on vous voit errer, observer, décrire les espaces, les lieux, les paysages où Léonard de Vinci a vécu. Alors bien sûr, il y a ce premier épisode où vous rencontrez des élèves du lycée Descartes, justement les élèves Cédric Delaunay, et où vous répondez aux préjugés qu'ils ont et que l'on a en général sur Léonard. Ce premier épisode va être l'élément déclencheur de ce voyage en Italie, sur les pas de Léonard. Le terme « histoire » vient du grec « historia » qui signifie « enquête ». Et justement, vous vous faites enquêteur pour ce documentaire qui va tâcher de suivre Léonard. Les épisodes s'intéressent aux multiples facettes du personnage, que ce soit les lieux et les espaces où il a vécu. Cela renvoie aux épisodes « le Toscan », « le Florentin », « le Français ». Ses multiples centres d'intérêt, l'homme de guerre, l'architecte, le scientifique, le peintre. J'ai omis de citer les autres épisodes, mais il y en a plusieurs. Pourquoi avoir choisi de faire une web-série documentaire cette fois-ci, plutôt qu'un ouvrage, par exemple?
Alors effectivement, la question de la diffusion m'est chère, de longue date. Je pense qu'il faut écrire aussi simplement, et ça n'est pas simple, en fait, d'écrire simplement, et peut-être trouver de nouveaux vecteurs. Alors j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé les expositions,
ouais.
Plusieurs expositions, en Lorraine, à Romorantin. J'ai essayé également le jeu sérieux. Ça, c'est encore en fabrication, mais on travaille là-dessus. En ce moment, en train de travailler sur une bande dessinée sur la Renaissance.
D'accord.
Avec Anne Simon, une dessinatrice de talent. Et donc, la web-série, c'est aussi l'occasion d'avoir plus de temps, parce que c'est... 12 épisodes de 20 minutes, donc on a vraiment beaucoup de temps, ça fait 4h30 de diffusion, et beaucoup de temps pour parler de thèmes complexes, très différents, et la possibilité d'une interaction avec le public, parce que cette web-série, en plus, on renvoie sur des liens internet à des possibilités d'aller explorer une infinité de rhizomes comme ça, qui sont quand même tout à fait intéressants. Donc la web-série, c'est aussi l'occasion de parler de choses que la télévision va refuser. Comme un exemple typique, c'est la question de la physique aristotélicienne. C'est pas très sexy. D'accord. Pour la télévision, y compris pour Arte.
Ah oui.
Et où Gédéon Programme, qui produit, je dénonce, hein, on y va, qui produit les choses pour Arte. Alors le problème de la télévision, c'est qu'ils veulent être les maîtres eux-mêmes du contenu.
Ils veulent tout contrôler.
Ils veulent tout contrôler, et ils ne sont pas nécessairement spécialistes de Léonard. Et leur argument est toujours, oui mais nous, vous êtes des savants, vous n'allez pas savoir diffuser les choses, vous allez parler savant et vous allez ennuyer tout le monde. Et moi j'ai fait le pari qu'on pouvait, même en étant professeur, intéresser les étudiants. C'est un truc un peu étonnant, mais... Et donc, aller dans des endroits où la télévision ne va pas. Puisque la télévision va avoir tendance à répéter des choses qui se savent déjà. Alors, ce qui est amusant aussi, et je me tais parce que j'étais déjà trop bavard.
Non, allez-y, allez-y.
Mais là, par exemple, il y a une émission de télévision faite par Stéphane Bern qui va sortir prochainement le 24 octobre à la télévision. Et en fait, l'équipe de Stéphane Bern a vu la websérie. Donc en fait, il y a un côté performatif aussi de ce travail, c'est-à-dire que ils ne peuvent plus dire les mêmes choses une fois qu'on a produit quelque chose qui est en fait qui reste entre les mains des universitaires. Voilà.
Et du coup, en faisant cette série documentaire, est-ce que vous ne voulez pas justement corriger le tir vis-à-vis, par exemple, de mauvaises séries historiques ou encore des missions qui essayent de vulgariser l'histoire, mais d'une mauvaise manière ? Est-ce que vous, justement, avec votre bagage universitaire, vous n'arrivez pas justement à mieux en parler ? Et justement...
Oui et non. Alors, c'est pas tant les fictions. Moi, j'ai beaucoup de goût pour les fictions à partir du moment où on considère que les fictions sont des fictions. C'est-à-dire D'accord. que même... Même le Da Vinci Code, j'ai plaisir à lire le Da Vinci Code. Bon, à partir du moment où on est bien d'accord que c'est une fiction. En fait, ce qu'il y a... J'entendais Cédric parler justement de Game of Thrones. Je suis un grand amateur aussi. L'engouement pour Léonard au début du XXe siècle est largement lié à une fiction. Qui est le roman de Merezhkovski, qui est publié en 23 en Allemagne, lu par Freud immédiatement, en 26 en France, et qui tout de suite donne une ampleur incroyable. Merezhkovski connaissait extrêmement bien le détail de la vie de Léonard de Vinci, en tout cas tout ce qu'on pouvait en connaître à son époque. C'est un vrai fin connaisseur. Et puis, ce qui m'amuse toujours, c'est que parfois, la fiction... devient la vérité. Par exemple, si vous allez sur la colline de Fiesole aujourd'hui, il y a une plaque qui parle de Zoroastre, l'apprenti de Léonard, qui aurait volé sur un ornithoptère de Léonard depuis le dos du Cygne, c'est-à-dire la colline de Fiesole. Ça ne trouve aucune référence dans les textes de Léonard. Tout ça est une fiction de Merezhkovski. Mais la fiction de Merezhkovski est maintenant gravée sur pierre. Et dans le village natal de Zoroastro, qui est un vrai personnage historique, ici est né Zoroastro qui a volé sur les machines de Léonard. Donc vous voyez, les confins de l'histoire et de la fiction sont toujours difficiles à fermer parfois. Donc l'historien est là, mais on peut aussi s'amuser de la fiction. À partir du moment où on sait les choses, tout va bien.
Et quand on voit la fascination justement pour un personnage tel que Léonard, aux multiples facettes, est-ce que justement c'est pas plus facile d'explorer cette interaction avec le public, puisqu'évidemment entre la différence entre la fiction et votre web-série, c'est justement le questionnement. Est-ce que le questionnement finalement n'arrive pas à désacraliser, démythifier la personnalité de Léonard de Vinci ?
Certainement. De toute façon, le travail de l'historien, et vous en savez quelque chose, c'est d'apporter justement des interrogations et d'apporter l'esprit critique. Donc notre travail, c'est effectivement celui-là. Mais c'est quand même très très difficile parce que je dirais que Léonard de Vinci, quand travailler sur Léonard de Vinci, c'est comme être un restaurateur qui retire couche par couche le vernis, vous voyez, qui a noirci le tableau et qui vous perd un petit peu. Donc il faut retirer la couche Vasari. Par exemple, Vasari était le biographe de Léonard, qui dit un certain nombre de choses qui sont fausses. Donc il faut retirer ça. Il faut retirer même les couches successives depuis, les idées idiotes sur Léonard qui va découper les corps le soir à la lanterne, etc. Bon, il y a du mythe. Donc le travail de l'historien, c'est aussi de repartir en arrière. L'idée du génie de Léonard qui n'aurait aucun prédécesseur, qui aurait tout inventé, ça, il faut le déconstruire. Et une web-série qui prend son temps peut permettre de prouver cela.
Mais le mythe est intéressant dans le sens où il peut être un point d'accroche pour le grand public, pour un large public. Ça peut être un élément qui lui permette de découvrir une période, un personnage, et effectivement, dans un second temps, pour un grand public non averti, effectivement, il va passer sur les fourches codines de l'historien qui va justement clarifier et démythifier le personnage. Mais le mythe peut avoir son intérêt. C'est pas un mal en soi, un mythe.
Non, non. Il y a l'image. Il y a la question de l'image. Parce que la web série permet d'attraper l'attention du public sur des images. Je vous donne un exemple. Un sujet difficile, la physique aristotélicienne de Léonard de Vinci. A priori, Arte serait contre. On parle de ça, Arte. Hein. Mais si vous emmenez le public, les élèves du lycée Descartes par la caméra, si vous les emmenez dans un laboratoire de police pour faire des expériences sur des gourdes dans lesquelles on tire avec une arquebuse, regarder avec une caméra à haute vélocité ce qui se passe exactement quand la balle entre dans la gourde, là, en fait, ça retient l'intérêt. Parce que c'est un peu une CIS, là, vous voyez. Donc, c'est Léonard et une CIS. Donc, on est... voilà, je pense que ça retient l'intérêt. Et il faut trouver le... Parce que l'écriture d'une même série, c'est aussi l'écriture... C'est le visuel est très important. Il faut comprendre comment le visuel, le sonore aussi, vont pouvoir travailler ensemble la curiosité d'un public.
Et est-ce que ça vous a obligé à plus de vulgarisation, par exemple, par rapport à un ouvrage que vous auriez pu écrire, justement, parce que peut-être que vous visiez justement un peu plus large, est-ce que ça vous a obligé à pas forcément à changer votre propos, mais à l'adapter peut-être à un plus grand public?
Il faut le faire aussi en pensant en rythme, c'est-à-dire que le rythme de la caméra est un rythme très rapide, et on est obligé de ralentir les choses de manière à raconter quelque chose qui va entrer dans la compréhension de ceux qui voient le sujet. Donc on aurait pu faire beaucoup plus rapidement l'histoire de l'expérimentation aristotélicienne, mais personne n'aurait retenu. Donc oui, forcément. Et puis on choisit son public. Moi j'avais choisi que le public potentiel aille jusqu'au lycée et jusqu'à des classes de seconde. Et lors de la projection au lycée Descartes à Tours, je pense que ça marchait.
Comment ils ont réagi ?
Avec une classe lambda, une classe qui n'avait rien d'exceptionnel ni de catastrophique, ça a bien marché. Alors ça a bien marché parce qu'ils se sont vus sur le premier épisode, sur l'épisode 0. Et ensuite, ça a bien marché parce qu'effectivement, c'est une vulgarisation intelligente. C'est-à-dire que c'est une vulgarisation qui va pas vers la simplification.
C'est ça. On vulgarise, mais en même temps, on recomplexifie le personnage.
Voilà, c'est le talent d'un professeur. C'est effectivement de partir de choses qui sont difficilement compréhensibles, parce qu'effectivement, ça nécessite la maîtrise de phénomènes physiques extrêmement complexes, et c'est les rendre intelligibles par un public qui n'a pas ces connaissances-là, mais qui va y accéder par petits pas. Et bien, donc, c'est sous ce travail de vulgarisation que Pascal fait si bien.
Merci beaucoup. Alors, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Working Class Hero du grand John Lennon, que vous avez choisi, Cédric Delaunay. Musique.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be.
A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
C'était Working Class Hero de John Lennon. Sébastien, tu as une chronique à nous présenter, de quoi vas-tu nous parler ?
Bonjour à tous. Dans cette chronique, j'aimerais aborder l'histoire sous l'angle du jeu vidéo, et je vais donc vous présenter une liste non exhaustive des jeux intégrant l'histoire. Commençons d'abord par parler de la majorité des jeux vidéo, celles qui exploitent l'histoire pour servir le gameplay. Juste après, nous allons un peu plus loin en nous intéressant aux jeux vidéo qui utilisent l'histoire comme le point de départ d'une aventure, à l'instar d'un roman ou d'une série historique par exemple. Et pour finir, nous verrons ce qu'apporte la pratique du jeu vidéo à la discipline historique et à son enseignement. Débutons par les jeux de stratégie en temps réel avec les Total War. C'est une série qui pousse au maximum la stratégie militaire. Vous pouvez revivre des batailles grandioses et pour cela vous devez gérer le mouvement de toutes vos troupes sur le champ de bataille. À chaque jeu, son époque. Il existe un Total War Napoléon, un Total War Rome ou encore un Total War Attila. Bref, tout cela vous laisse de quoi passer des nuits entières à la conquête de l'Europe ou du monde entier. Mais après être devenu le général en chef des armées du monde, abordons un autre type de jeu vidéo qui vous propose de prendre la place d'un soldat directement sur le champ de bataille. C'est le cas des jeux que l'on nomme les FPS, en français, les jeux de tir à la première personne. Exploitant le filon des guerres du XXe siècle, la licence la plus connue est la série des Call of Duty, qui, à ses origines, se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Le joueur est alors acteur de la bataille de Stalingrad, en passant par le front du Pacifique et participant au débarquement en 1944 sur les plages normandes. Le but est simple, avancer en tuant tous les ennemis sur votre passage. Mais le reproche que l'on fait communément à ces jeux, c'est qu'ils centrent principalement l'histoire sur celle des vainqueurs. Ainsi, dans la campagne, vous ne pourrez pas jouer les soldats allemands ou japonais. Toujours dans la même vision américano-centrée, le principal concurrent des Call of Duty, la série de jeux Battlefield, provoque en 2016 une polémique à la sortie d'un nouvel opus. Celui-ci se déroule lors de la Première Guerre mondiale, proposition plutôt originale de EA Games qui décide de travailler sur une période qui est communément mise de côté, au profit de la Seconde Guerre mondiale, jugée moins statique. Mais les développeurs ont commis l'erreur d'occulter la présence des soldats français et belges, en ne les intégrant pas directement dans le jeu, effectuant ainsi un véritable révisionnisme. Ajoutons que les poilus seront jouables, mais bien après la sortie du jeu, et moyennant le coût de 15€ supplémentaires. Il ne faut pas oublier que les jeux de tir à la première personne anglo-saxons font souvent polémique et sont régulièrement accusés de faire de la propagande pro-militariste aux États-Unis. Voilà un trop bref résumé des jeux vidéo exploitant l'histoire comme un simple prétexte pour servir le jeu. Abordons maintenant les jeux vidéo qui utilisent l'histoire comme objet principal de l'intrigue et du gameplay, et non plus comme un prétexte. Et pour cela, parlons d'un petit bijou. Alors certes, c'est encore un jeu qui parle de la guerre, mais il est très différent des autres parce qu'il n'y a aucun mécanisme guerrier. Vous n'aurez donc pas à utiliser une arme à feu ou encore à tuer un ennemi virtuel. Ce jeu, c'est Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, où l'on incarne successivement trois soldats. Émile, forcé de quitter sa ferme en Lorraine pour faire la guerre, Karl, jeune soldat allemand dont l'épouse est française, Freddy, un afro-américain engagé volontairement dans la Légion étrangère, et aussi Walt, un chien formé à la recherche de victimes sur le champ de bataille. Ce jeu est d'une qualité graphique assez poussée et qui rappelle un peu le style de la bande dessinée, et il y a également une narration très soignée. Pour moi, ce jeu est un chef-d'œuvre, d'autant plus qu'il est réalisé par un studio français, celui d'Ubisoft Montpellier. Autre jeu de chez Ubisoft, cette fois-ci du studio de Montréal. Je voudrais parler d'une série bien connue, celle des Assassin's Creed. Reprenant le système du monde ouvert, où le joueur peut se promener où bon lui semble, les Assassin's Creed promettent au joueur une immersion à travers les âges. De la magnifique Athènes durant la guerre du Péloponnèse, au Londres de l'époque victorienne et de ses usines suffocantes, en passant par le Paris et le Versailles de la Révolution de 1789, vous incarnez un homme ou une femme appartenant à la société secrète des assassins. Leur but est de combattre leurs ennemis jurés, les Templiers. Mais arrêtons-nous plus en détail sur le deuxième opus, qui est pour moi le plus réussi. Et cela va plaire à Monsieur Briouat, puisqu'au détour des missions, nous y retrouvons le personnage de Léonard de Vinci, aidant le héros principal Ezio Auditore. De Vinci est un ami de la famille Auditore. Il est même central, puisque ces deux personnages vont se rencontrer de nombreuses fois à travers l'histoire. Mais il n'est pas le seul à être présent dans ce jeu. Nous y retrouvons également Rodrigo Borgia et Laurent de Médicis par exemple, faisant ainsi du joueur l'un des acteurs de la Renaissance italienne et les intrigues politiques qui l'accompagnent. Mais attention, Assassin's Creed ne prétend pas représenter une véracité historique. Il fait seulement évoluer le joueur dans un univers totalement fictif, ajoutant des éléments réels, que ce soit des personnages ou des bâtiments emblématiques. Les développeurs avouent même biaiser la réalité historique au profit d'arguments pour faciliter le gameplay. Il y a parfois même des maladresses au niveau de leur position narrative, ce qui crée des polémiques et des débats historiques. Mais passons, puisque la clé de la réussite d'Assassin's Creed 2, c'est l'ambiance que les développeurs ont réussi à y mettre. Vous pouvez vous balader dans la campagne toscane avec votre cheval ou sur une gondole à Venise par exemple. Et l'autre particularité de ces jeux, c'est la capacité de notre personnage à pouvoir monter sur à peu près tout ce qu'il veut. Cela permet aux joueurs d'escalader les monuments les plus emblématiques de l'Italie de la Renaissance par exemple. Le Dôme de Milan ou le Palazzo Vecchio de Florence en passant par le Palais des Doges de Venise. Et cela renforce encore plus le côté immersif. Et toutes ces modélisations de monuments ont donné une idée aux développeurs du jeu. Ils se sont dit, pourquoi ne pas pousser l'expérience encore plus loin, en proposant aux joueurs de devenir spectateurs de ces mondes virtuels, et pouvoir en faire un système d'éducation totalement immersif. Ils ont donc inclus un mode de jeu spécial en dehors de tout scénario. Cela devient un formidable outil pédagogique, puisque quoi de mieux qu'étudier un bâtiment ou une ville et pouvoir s'y balader. Mais tout cela est à nuancer, puisqu'il faut à tout prix se pencher sur la valeur scientifique du contenu, si celui-ci devient un objet éducatif. L'utilisation du jeu est actuellement en test par l'éducation nationale, et sera diffusée plus largement si celui-ci est concluant. Il faut y voir également une excellente publicité pour les développeurs, puisque cela permet d'accommoder les futures générations de joueurs. Rappelons que le jeu original est interdit au moins de 18 ans. A ce jour, le Discovery Tour a reçu plusieurs récompenses, dont celui du meilleur jeu éducatif par les Games Choice Awards. On pourra remarquer que cela s'inscrit dans une logique plus récente de l'utilisation du numérique dans la pratique de l'histoire. Par exemple, il est désormais proposé des visites en réalité virtuelle à l'intérieur de musées, technologie qui, je le rappelle, est conçue en premier lieu pour l'utilisation du jeu vidéo. Autre exemple, les histopades. Ces écrans proposés en début de visite de musée étaient à la base des Nintendo DS, devenant par la suite des tablettes tactiles. Elle permet par l'écran de pouvoir recréer en réalité virtuelle des intérieurs, comme par exemple au château de Chambord ou le mobilier manquant. Nous avons donc pu voir l'intense relation entre jeux vidéo et histoire. Au départ, l'histoire n'est qu'un prétexte pour habiller un jeu vidéo et ses mécaniques, puis elle devient partie prenante de l'intrigue et offre de réelles expériences narratives et historiques, pour enfin aboutir au fait que le jeu vidéo repousse les limites de ce qu'est faire de l'histoire en ouvrant de nouvelles perspectives dans la recherche et dans la transmission du savoir.
Merci Sébastien, alors on l'a compris, le jeu vidéo s'empare depuis longtemps de l'objet historique. Est-ce que vous vous intéressez tous les deux à cet univers du jeu vidéo? Est-ce que vous avez déjà essayé et quel est votre rapport à cet univers en fait? D'abord Cédric Delaunay.
Oh bah j'ai joué quand j'étais jeune. À Civilisation, j'ai plusieurs fois conquis la Terre, de façon radicale, des fois à coup de bombe nucléaire. Mais donc ça fait toujours plaisir de se prendre pour Dieu. Mais sinon, effectivement, le jeu vidéo est un support très important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est constitutif de la culture, notamment des jeunes générations. Et que ces jeux vidéo, forcément, trouvent des ancrages dans l'histoire réelle. Et forcément, il y a des formes d'interprétation qui peuvent être contestables. Ainsi, il y a eu plusieurs polémiques sur Assassin's Creed, notamment menées par Jean-Luc Mélenchon, qui a bien compris la nécessité de ne pas tomber dans des caricatures sur des éléments aussi importants que la Révolution française, où il fallait faire attention parce que se formaient des stéréotypes dans les esprits des jeunes qui étaient ensuite très durs de combattre. Alors ces stéréotypes, ils peuvent être involontaires, fruit de simplification et d'une autre façon de scénariser les choses. Ils ne sont pas là pour faire de l'histoire, ils sont là pour faire un jeu. Sauf que des fois, il peut y avoir des modifications de l'histoire qui soient orientées, qui politiquement aient un sens. Et effectivement, dans un monde anglo-saxon, plutôt libéral, il peut y avoir des visions, notamment sur la Révolution française, qui peuvent apparaître contestables aux yeux de certains, surtout voilà, quand on est très orienté à gauche.
Et Pascal Bruyère, justement, il y a eu un Assassin's Creed du coup, sur les Médicis, enfin à l'époque des Médicis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelle a été votre perception vis-à-vis de...
Moi, ma perception au départ en était assez limitée parce que je suis tellement maladroit que je suis incapable d'aller au-delà des premières scènes. Mais j'ai eu un étudiant de master MEF qui a eu ça en sujet. Je connais ça en sujet. d'étudier Assassin's Creed, de faire les découpes. Et comme ça, j'ai pu aller au-delà des premières scènes. Et alors, ce que je crois, c'est que les concepteurs d'Assassin's Creed ont toujours autour d'eux de très bons conseils. Vu les budgets de ces jeux, là, on est au niveau international et on parle de plusieurs millions d'euros. Hein, donc, vu les budgets de ces jeux, c'est pas très cher. De toute façon, ils sont rien, c'est pas très cher. Et ils sont en général très bien conseillés. Mais après, il y a des concessions. Alors, les concessions, elles peuvent être liées à des questions purement techniques. Par exemple, dans ces villes de la Renaissance ou du XVIIIe siècle, il y a très peu de chevaux. Alors qu'en fait, ce sont des villes qui sont peuplées de chevaux. Alors, c'est beaucoup moins grave que de faire de Robespierre purement un méchant sans comprendre ce qu'est la Révolution française. Mais cette histoire des chevaux, c'est un exemple typique. Là, la contrainte, c'est que c'est difficile de faire des personnages animés et puis de multiplier les chevaux, ça coûte très cher. Et c'est pas sûr que dans l'état actuel des choses de la technologie, on sache le faire. Voilà un type de concession possible. Et puis ensuite, il y a des concessions qui sont liées au fait, est-ce qu'on va reconnaître les choses? Est-ce qu'on va reconnaître un drapeau? Est-ce qu'on va reconnaître le Palazzo Vecchio si on le met exactement comme il était à l'époque de Léonard de Vinci? Et donc il y aura toujours débat. L'équipe d'Assassin's Creed va toujours pouvoir justifier ces concessions. Mais l'erreur serait évidemment de considérer que le jeu dit exactement la vérité. Bon, alors après, il y a aussi toutes les fictions. C'est-à-dire que quand on introduit, parce qu'on a envie de faire voler vraiment les machines volantes de Léonard de Vinci, qui en aucun cas ne pouvait voler, hein, soyons clairs, quand on fait voler un personnage sur une... Oui, je suis allé loin dans Assassin's Creed quand même. Sur un ornithoptère léonardien, bon, c'est ridicule. Mais le cinéma le faisait. Bruce Willis avait déjà volé sur un ornithoptère léonardien. Donc, tout est possible.
Et vous, si aujourd'hui on vous appelait par exemple pour être conseiller sur un jeu vidéo comme ça, ça vous intéresserait justement d'aller vers cet univers-là?
Oui, alors ça m'intéresserait d'autant plus que j'ai fait un serious game, mais avec les moyens de l'université, c'est-à-dire certainement pas des millions d'euros. Mais vous voyez, le serious game, c'est donc jeu sérieux en français, c'est-à-dire comment on se retrouve à Romorantin dans un atelier purement fictif de Léonard, encore que. Et dans cet atelier, on retrouve des manuscrits de Léonard et des machines incomplètes. Et c'est l'occasion pour le joueur, avec un casque en immersion totale, d'aller retrouver tous les éléments de la mécanique telle que Léonard les avait décomposés. Tous les types de cames, tous les types de ressorts, tous les types d'engrenages, etc. Et là, vous voyez, on peut construire quelque chose. Mais très vite, il y a des limites, c'est-à-dire que si on n'est pas repris derrière par des grandes compagnies qui s'intéressent à ce genre de choses, on est un tout petit peu limité. Mais bon, on peut quand même faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Et je pense que c'est la même logique qu'avec la télévision. Si on commence, nous, à faire des choses avec une petite exigence intellectuelle et qu'on montre que c'est plaisant, derrière, éventuellement... de fait, tout ça veut dire des jobs pour les futurs historiens, hein, bien sûr, parce que c'est aussi un avenir professionnel pour beaucoup d'entre vous, étudiants de l'Université de Tours. Donc il faut y penser.
Alors maintenant, je vous propose de revenir sur les rapports entre l'historien et la fiction. On en a déjà un peu parlé au début de l'émission. J'ai une question à vous poser tous les deux. Peut-on trouver des similitudes entre le fait de raconter l'histoire dans la fiction et dans le récit historique, comme le pratique l'historien et comme il le conçoit? Peut-être d'abord Cédric Delaunay.
Alors, l'écriture fictionnelle est forcément différente de l'écriture historique. Et donc, les buts ne sont pas les mêmes, les exigences ne sont pas les mêmes, les méthodes ne sont pas les mêmes. Même entre un roman et une série, on n'écrit pas de la même façon. Donc forcément, on va prendre ses distances. Mais ensuite, par exemple pour Martine, très clairement, c'est de trouver des sources d'inspiration dans le passé qu'on va recomposer, sublimer, transformer pour ensuite créer un monde imaginaire. Game of Thrones n'est pas un Moyen-Âge réaliste. C'est un Moyen-Âge possible, plausible, en dehors des touches de fantastique. Mais Game of Thrones n'est pas un roman fantastique. Le fantastique est juste aux marges, en fait. Et pendant très longtemps, dans le roman, j'allais dire tout le temps, il est totalement en périphérie et n'agit que comme des forces périphériques au récit. Les morts-vivants, ils servent juste en fait pour soutenir le rythme et l'intrigue et la peur globale. Mais on les voit jamais dans le roman. Dans la série, pareil, on les voit, mais très tardivement. En fait, ils arrivent à passer le mur à la fin de la 7e saison. C'est-à-dire que pendant cette saison, on les voit quasiment pas. Les dragons, c'est juste les bombardiers version médiévale, quoi. C'est l'armée de l'air, quoi, et donc qui permet d'arraser la force ennemie. Mais ça pourrait être des dragons, ça pourrait être des avions, ça pourrait être n'importe quoi. En fait, c'est pas très important que ce soit des dragons, c'est juste une arme colossale qui fournit à celui qui possède, en l'occurrence celle qui possède, une puissance supplémentaire. Et donc, de voir que la fiction, en fait, chez Martin, et voilà, s'inspire juste de la réalité. C'est pas un roman historique, c'est pas une fiction historique. Par contre, quand on fait une fiction historique qui vraiment prend ancrage en réalité, surtout si cette réalité elle n'est pas si loin, si éloignée que nous, et sur lesquelles il y a des enjeux importants, il faut faire extrêmement attention. On parlait d'un village français entre nous avant l'émission. Voilà un village français, voilà la nécessité de... Quand on va traiter un tel sujet, même si c'est une fiction, les personnages sont totalement des personnages fictionnels, il n'y a pas du tout de réalité. On n'a pas le droit de se louper. On n'a vraiment pas le droit de se louper. Parce qu'on sait que derrière, ça peut être récupéré par des gens mal intentionnés. Et donc, faut pas dire n'importe quoi, sous prétexte que les personnages sont fictifs. Et donc là, effectivement, l'historien... Alors, il y a une équipe historique derrière, très solide, qui a effectivement revu pas à pas l'avancée du scénario. Et la force de cette série, justement, c'est d'avoir concilié la petite histoire et la grande. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire, on n'a pas l'impression de voir un truc didactique. On n'a pas un cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, sur la vie quotidienne des Français pendant la Seconde Guerre mondiale. On suit le destin de héros qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on apprécie, auxquels on s'attache ou pas. Et on est pris par ça. Et l'histoire, la grande histoire, entre guillemets, elle se compose juste d'un tableau de fond réaliste. Et là, c'est une réussite totale.
Et vous, Pascal Briouat, qu'en pensez-vous de ce rapport justement entre fiction et récit historique ?
On retrouverait la même chose, le même parallèle que Cédric vient de dépeindre entre deux types de fiction différentes appliquées à Léonard. Dans les années 70, le RTF et la RAI ont fait une vie de Léonard de Vinci que vous retrouverez sur YouTube, hein, Vita di Leonardo da Vinci, un petit peu par l'italien. Mais cette fiction qui était bonne à l'époque, qui est très datée évidemment, très années 70, y compris au niveau de la musique et des commentateurs en pâte def qui font un peu bizarre dans... c'est quand même une très bonne fiction historique, avec beaucoup de moyens d'ailleurs, mais qui est restée avec des conseillers historiques comme Carlo Pedretti, le plus grand spécialiste de Léonard de l'époque, qui était encore jeune à l'époque. Et voilà, donc tout ça, c'est un type de fiction historique. Et puis maintenant, vous avez une fiction historique beaucoup plus récente qui s'appelle Da Vinci's Demons, qui est... qui est très informé. Voilà des gens qui ont lu Léonard de Vinci, qui savent plein de trucs sur Léonard de Vinci, mais qui se donnent des libertés parce que, comme dit William Blake, toute chose qu'il est everything possible to be believed is an image of truth. C'est-à-dire tout ce qu'on est capable d'inventer, après tout, c'est une image de la vérité possible. Une autre vérité dans un autre univers, un univers parallèle, pourquoi pas. Et là, dans Da Vinci's Demons, on retrouve Léonard chez les Aztèques, mais avec des scénaristes qui connaissent extrêmement bien Léonard, un petit peu comme Merejkovski, sauf qu'ils sont allés beaucoup plus loin dans le délire. Mais si on voit bien dans quel registre on parle, tout va bien. Je crois que de la même façon, on peut lire le Da Vinci Code comme quelque chose de parfaitement absurde par rapport à Léonard. Léonard détestait l'ésotérisme, par exemple. Détestait ça. Mais c'est amusant de lire Da Vinci's Demons, de lire le Da Vinci Code, à condition de bien savoir de quoi on parle. Donc, voilà, il y a des régimes de narration différents.
c'est ce dont parle un historien qui s'appelle un historien américain, qui a un peu provoqué les historiens, qui s'appelle Eden White. Et Eden White, je dis, après tout, l'histoire, c'est une narrativité comme une autre. Moi, j'aurais tendance à penser, comme Marc Bloch, ou comme Carlo Ginepo, ici présent à Blois, que ça n'est pas tout à fait une narrativité comme une autre. L'histoire est une narrativité qui doit s'appuyer sur des preuves et sur l'administration de la preuve. C'est ça la différence entre les deux métiers.
Oui, finalement, à vous entendre, la différence, c'est la façon dont on s'appuie sur la documentation, au préalable.
Exactement, la note de bas de page. S'il y a des notes de bas de page, c'est sérieux.
Oui, c'est-à-dire que quand on voit les rois maudits, voilà, autre source d'inspiration de Martin, voilà, il y a des éléments historiques, et puis on prend des libertés, parce que c'est un roman. C'est un roman, et j'allais dire que même si on transforme tel ou tel personnage en assassin, etc., honnêtement, on s'en fiche du moment qu'on passe un bon moment devant quelque chose qui fait plaisir, etc.
S'il y a du chant et du sexe, ça va.
Voilà, ça marche bien. Mais à partir du moment où, effectivement, on est d'accord, c'est une fiction qui s'inspire de faits réels, qui peut s'appuyer sur des situations réelles, mais c'est vraiment une fiction. Ce qu'on n'a pas le droit de faire sur les périodes dans lesquelles il y a des enjeux, effectivement, politiques.
Parce qu'il y a les problèmes de la mémoire, du coup. Enfin,
voilà,
qui interviennent.
Voilà, parce que là, il y a les problèmes de la mémoire. Forcément, si vous dites n'importe quoi sur la Seconde Guerre mondiale, vous allez voir tous les pétainistes revenir au galop, etc. Donc, il faut faire attention. Voilà.
D'autant qu'il y a des mémoires chaudes, vous voyez, sur ce village français. Là, moi, j'ai le souvenir d'un ami à moi qui est préfet. Qui est allé faire un discours, préfet mais historien, agrégé d'histoire, qui est allé au Chambon-sur-Lignon et qui a fait un très très beau discours historique sur le Chambon-sur-Lignon. Vous savez, c'est ce village où on a sauvé des enfants juifs. Donc il y a beaucoup de justes. Donc il est allé mettre une plaque et tout. Et tous les lobbies pétainistes, de gens qui ont été privés de leurs droits civiques après la Seconde Guerre mondiale, ont actionné leurs journaux privés. Et là, on est dans les années, au tout début des années 90, vous voyez, c'est pas si loin. Donc il y a encore des mémoires chaudes. Ils ont dit, oui, le jeune préfet ne sait pas de quoi il parle. Donc, vous voyez, les fictions, bon, là, on n'en est pas dans une fiction, mais les fictions se heurtent à ça aussi. Il y a le mur des mémoires chaudes.
Alors, je reviens un peu vers vous, Cédric Delaunay. Notamment sur Game of Thrones, qui est une série assez singulière du point de vue de son utilisation, enfin du point de vue de l'utilisation de l'histoire. Et justement, est-ce que vous avez remarqué déceler une manière particulière justement de faire écho à cette histoire dans Game of Thrones? Comment on s'y prend finalement, concrètement, qu'est-ce qu'on veut montrer? Si ça peut être davantage des figures, des personnages, ou si c'est davantage des institutions, des perceptions, des représentations?
Alors, la représentation générale, c'est quand même la guerre des deux roses. C'est ce qui sert, c'est ce qui sous-tend tout le régime, à savoir un affrontement, une guerre civile entre grandes familles pour la possession du pouvoir. Et donc, à partir de ce fond, on a des éléments ponctuels qui sont sublimés par l'écriture ou ensuite par la production visuelle. Ainsi par exemple le mur d'Adrien qui très clairement, alors là il l'a dit George R. R. Martin, c'est le mur d'Adrien, c'est le mur, mais il dit moi je l'ai vu quand j'étais enfant, j'avais 5 ans et j'ai vu le mur et pour moi il m'a semblé gigantesque ce mur parce que j'avais 5 ans, quand j'y suis retourné quand j'étais adulte, bah, il fait 4 mètres de haut et donc pour faire un récit avec un mur de 4 mètres de haut, bah, c'est pas très impressionnant. Donc là j'ai fait un mur voilà, qui fait 200 mètres de haut pour marquer le coup. Et puis, comme il disait, je m'imaginais en petit factionnaire romain attendant l'Écossais. Mais aujourd'hui, les Écossais, ils font plus peur à personne, à part peut-être sur un rugby, peut-être. Ils peuvent un peu effrayer les gens. Mais voilà, les Écossais, c'est un petit peu juste. Donc voilà, le mort-vivant vient remplacer les Écossais pour donner une figure effrayante. Et donc, c'est ça l'aspect romanesque. C'est de prendre des personnages, de prendre des lieux, et de les sublimer. Ensuite, il y a des archétypes de personnages. Les princes incestueux, forcément, l'inceste est universellement condamné, sauf ponctuellement dans l'Égypte lagide. Donc, voilà, quand on voit les Targaryens qui sont incestueux, forcément, on peut faire que le parallèle qu'avec les lagides. Et ensuite, quand on voit Cersei et Jaime, Voilà, on voit les Ptolémées, on voit les Ptolémées à l'œuvre. Donc là, c'est juste une source d'inspiration, parce qu'effectivement, avec ce côté de l'inceste, il voulait donner un côté choquant qui donne une réprobation initiale vis-à-vis des personnages de Jaime et de Cersei. Ensuite, il y a les autres archétypes, le chevalier parfait, incarné par Brienne, alors voilà, la vierge guerrière, forcément, on a Jeanne d'Arc à l'esprit. Et ensuite, c'est de prendre, par exemple, des moments historiques qui ont choqué la population, qui ont marqué les imaginaires, comme la tonte de Cersei avec les femmes tondues. Voilà des scènes qui, forcément, quand on les voit, alors peut-être nous, plus européens qu'américains, et notamment français, quand on voit la scène de la marche de la honte de Cersei, ça nous renvoie à si on a été touché par ça, par la violence de la scène. C'est certes parce que la scène est violente en soi, mais c'est aussi parce qu'elle renvoie à un imaginaire qu'on a tous intégré, ultra violent, et qui fait qu'on est touché par le sort de ce personnage qui, tout à coup, d'un personnage détesté, marginalisé, etc., devient un personnage avec, pour lequel on éprouve de l'empathie. C'est-à-dire que quel que soit son crime, voyez, on est comme Aragon avec son poème, on a de l'empathie pour cette pauvre femme, parce qu'elle devient l'humanité même, une femme qui est martyrisée par une foule.
Donc finalement, à vous entendre, Cédric Delaunay, c'est le spectateur est aussi acteur de sa perception de l'histoire, au savoir qui va lui être transmettre.
Justement, je pense que ce qui fait le succès de Game of Thrones et d'autres séries, c'est que chacun met dans cette série polymorphe un peu de soi, avec ses propres références, ses propres visions. Quand j'ai été sur France Inter avec Marianne Sandès, elle voulait absolument me faire dire que c'était Me Too et que c'était vraiment la libération de la femme, etc. Alors moi, j'étais un peu circonspect vis-à-vis de cette vision-là, en disant que l'univers de Martine, c'était un univers médiéval et qu'il fallait d'abord puiser dans l'univers médiéval avant de faire de l'hypercontemporanisme, en disant voilà, c'est l'image de la société actuelle, etc. Alors forcément, quand un créateur d'aujourd'hui parle même d'une période ancienne, forcément, il emprunte aussi un peu au monde d'aujourd'hui, dans le domaine fictionnel, pas dans le domaine historique, mais forcément, il est influencé par l'actualité. Mais des images de femmes qui se battent, de femmes chefs de guerre, de femmes chefs d'État, il ne faut pas attendre aujourd'hui pour voir des femmes chefs de guerre et chefs d'État. C'était une vision un petit peu restrictive. Alors effectivement, le monde Game of Thrones, c'est l'effondrement du patriarcat. Oui, le patriarcat quand même s'en prend plein la tête. Mais et en ça, effectivement, il y avait un petit parallèle. Mais il ne faut pas voilà, aller au-delà, quoi.
On voit que vous avez beaucoup analysé les structures justement de Game of Thrones. Est-ce que ça vous a donné l'idée, je sais pas moi, est-ce que vous aimeriez écrire un roman historique par exemple, ça vous...
Alors j'ai quelque chose en perspective, mais je sais pas si je vais écrire des romans, mais j'ai l'idée d'une uchronie, sur Louis XVI réussit sa fuite à Varennes. Donc il y a déjà des choses.
Ça, c'est très à la mode, les uchronies justement. On a souvent, même au cinéma récemment, il y a eu le film de Tarantino justement, où à la fin il réécrit justement l'histoire un peu à sa sauce. Ça, c'est très particulier.
Ouais, Once Upon a Time, version Varennes, effectivement.
C'est
très stimulant intellectuellement parce qu'on s'aperçoit que l'histoire, c'est certes des forces sociales, des forces politiques de fond, mais c'est aussi des pas de chance, de l'improvisation. À Varennes, ça joue à si peu, en fait, ça joue à 5 minutes près. Et effectivement, s'il avait réussi à fuir à Varennes, qu'est-ce qui serait passé d'un point de vue du plausible ? L'histoire n'est jamais écrite d'avance.
Et donc, est-ce que pour vous, Pascal Briouat et Cédric Delaunay, la fiction n'est pas en quelque sorte un fantasme de l'historien ? Je veux dire par là que face au silence des sources, parfois, est-ce que l'historien ne serait pas tenté de tomber dans la fiction ou bien avoir de l'imagination dans l'imaginaire ?
Alors on est très jaloux de ceux qui peuvent utiliser la fiction. Il se trouve qu'il y a un auteur qui s'appelle Yann Piaz qui a écrit un très beau roman qui s'appelle Le Cercle de la Croix, qui se passe dans mon sujet de thèse. C'est très énervant. Sur les cercles intellectuels en Angleterre au XVIIe siècle. Et il peut se permettre des choses que nous, historiens, sans fiction à raconter, nous n'avons pas notre disponibilité. Et oui, il y a cette tentation, mais autant, là encore, je répète ce que dit Marc Bloch sur le métier d'historien, autant, bien sûr, il y a une narrativité dans ce que nous faisons. Nous racontons des histoires, mais nous les racontons toujours avec cette obligation de nous appuyer sur des preuves de ce que nous disons. Et
tout l'aspect fictionnel existe. On ne rejette pas la fiction. Le très beau livre de Patrick Boucheron sur Léonard et Machiavel pose la question de l'absence de discours de Machiavel sur Léonard et de Léonard sur Machiavel. Et complète les trous parce qu'il y a une narrativité un tout petit peu fictionnelle. Mais il ne le fait pas n'importe comment. Il le fait en s'appuyant sur des sources. C'est ça notre travail.
Merci beaucoup. Alors on va à nouveau faire une petite pause musicale. On va écouter un rébus de Léonard. Un rébus de Léonard, donc Pascal Aurier, vous avez choisi cette œuvre musicale qui a été créée du coup de toute pièce par
la seule trace que nous ayons par Léonard de Vinci. D'accord. De son talent musical. On sait que c'était un grand joueur de lira da braccio. La seule partition que nous avons est un rébus qui est aussi une chanson d'amour.
Alors il va être temps de conclure. Comment vous voyez demain la recherche et sa transmission, Pascal Brivois, comment vous pensez que ça va évoluer? Est-ce qu'on va aller vers une utilisation plus importante d'outils nouveaux, du numérique, ou bien ça va pas tellement changer finalement?
Non, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur des, par exemple, sur ce qu'on appelle les MOOC, c'est-à-dire l'utilisation de la vidéo pour faire passer mais des vidéos interactives. Donc on a énormément à travailler sur ces questions d'interactivité. C'est aussi de la pédagogie qu'il y a derrière tout ça, enfin, je pense ça.
Moi j'avais tenté pendant quelques années effectivement de faire le cours inversé à partir de MOOC. Pour l'instant on se confronte à pas mal d'obstacles et surtout à pas mal d'habitudes de la part des élèves, et c'est difficile à faire passer. Ensuite, je pense qu'en matière de pédagogie, effectivement, il faut toujours s'ouvrir à des choses nouvelles. À partir du moment où on ne tombe pas dans l'accessoire et juste le gadget vidéo, etc. Quand ça a du fond, comme ce qu'a fait Pascal, effectivement, avec les Serious Games, avec la série, la web série, là, ça a du sens. Mais à partir du moment où le fond est d'abord là, et ensuite, effectivement, on peut trouver dans les nouvelles technologies des moyens plus attrayants, plus attractif pour un public qui effectivement est de plus en plus tourné vers ces nouvelles technologies, mais ça doit pas être préalable au travail de fond, alors que ce soit au niveau du lycée ou au niveau du supérieur.
Et donc au vu du grand nombre de personnes qui fréquentent chaque année les rendez-vous de l'histoire, est-ce que vous pensez que l'histoire a encore un bel avenir?
Plus que jamais, je pense que ces territoires entre la fiction et l'histoire sont encore à explorer sérieusement. Et bravo pour cette émission, parce qu'elle pose vraiment un énorme problème qui est un problème de fond. Les médias s'emparent de l'histoire. L'histoire est constamment instrumentalisée. Ça, il faut quand même le dire. Un bel article récent de Florence Alazar sur la question de la Renaissance italienne et de son instrumentalisation dans Libération. Il faut être conscient de ces choses-là.
Merci Pascal Briouat et Cédric Delaunay d'avoir participé à notre émission. Je le rappelle, Cédric Delaunay, votre ouvrage Game of Thrones, de l'histoire à la série, édité chez Nouveau Monde, est toujours en vente. Quant à vous, Pascal Briouat, Les Audaces de Léonard Vinci, qui vient de sortir cette année, est à retrouver aux éditions Stock. Et la série Sur les pas de Léonard est à retrouver en ligne sur le site Intelligence des Patrimoines. Voilà, merci beaucoup messieurs. Je remercie aussi toute l'équipe de Radio Campus, Sébastien Dibois qui a réalisé l'émission, qui s'est occupé de la technique, le département d'histoire de l'Université de Tours, les rendez-vous de l'histoire qui ont rendu possible la réalisation de cette émission. Je vous dis à bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Je voudrais rajouter une petite information qui concerne l'Université de Tours. Il y a une journée d'études qui est organisée le 10 décembre et qui porte sur le rock. Vous y retrouverez plusieurs conférences à partir de 10h et la journée d'études se finira à 20h30 par un concert-performance à la salle Télème de l'Université de Tours, dans un spectacle qui met en relation le rock et la philosophie. Les réservations se font sur ticket-fac.univ-tour.fr et vous retrouvez plus d'informations sur le site de l'Université de Tours. J'en profite aussi pour dire que la prochaine émission du département d'histoire portera sur les péplums. Elle sera présentée par Pierre-Olivier Auchard et Sylvain Janiard et sera diffusée fin novembre.